André Ruiz. Retrouvez-moi chaque mercredi sur Altitude FM 93.5 pour l'émission Théâtralité qui parle du théâtre amateur. Bienvenue dans Théâtralité. Après notre émission du 16 octobre dernier sur Jean Poiret et des extraits de Joyeuse Pâques et de La Cage aux Folles, nous allons poursuivre en consacrant une série d'émissions sur l'artiste, mais cette fois en compagnie de son comparse et ami Michel Serrault et quelques-uns de leurs sketchs qui seront joués par nos amis Françoise Bénard et Philippe Merlan. Bonjour mes amis.
Bonjour André.
Merci d'être là. Aujourd'hui, nous allons alterner des extraits de biographies détaillées de chacun des artistes et des extraits de sketchs. Et nous commençons donc avec Jean Poiret. Jean-Gustave Poiret est né le 17 août 1926 dans le 14e arrondissement de Paris, à l'hôpital Cochin. Il grandit dans ce quartier aux 22 rues de la Tombissoire. Ce quartier n'a rien de festif. Des hôpitaux, Cochin et le Val-de-Grâce, des tombes, le cimetière Montparnasse, une prison, le centre pénitentiaire de Paris, La Santé. Les fenêtres de l'appartement donnent directement sur l'église Saint-Dominique. Il y passera son enfance avec vue sur cette église, c'est-à-dire vue sur les messes dominicales, les mariages et les enterrements. Cela le marquera à jamais. Son père est ouvrier verrier. Sa mère travaille comme aide-comptable dans la même usine, métier qu'elle abandonnera pour se consacrer exclusivement à son foyer. Au final, un salaire pour trois. Les Poiret ne sont pas riches. Ils comptent sou par sou et ne s'accordent que peu de loisirs. Seul l'art lyrique trouve grâce à leurs économies. Une passion qu'ils transmettent à leur fils. Ils s'offrent des places au poulailler de l'opéra parce que l'opéra reste un luxe. Ils se tournent vers l'opérette, cousine pauvre et populaire. Le genre est en pleine expansion avec pour écrin Le Châtelet, Mogador, les bouffes parisiennes, les variétés. Ses parents, lorsqu'il a 5 ans, décident de lui faire partager leur passion. Il connaît déjà de nombreux morceaux pour les avoir entendus à la radio, mais va désormais pouvoir y associer des images. Jean tombe sous le charme, fasciné par cet univers si loin de son quotidien. Ça bouge, ça flamboie, tout cela lui plaît, au point de se précipiter à la fenêtre dès qu'il entend sonner les cloches de l'église. Il a l'oreille et sait parfaitement différencier l'annonce d'un mariage de celle d'un enterrement, d'une messe ou de recueillement ou de celle d'un baptême. Des corvées dominicales l'ennuient car sans éclat. Les mariages le perturbent, car très désordonné. Restent les enterrements. Ah, les enterrements! Voilà une authentique attraction, réglée comme du papier à musique. Chacun à sa place, pas une fausse note. Il était un enfant très doué et enclin à la rêverie. Il s'enchantait du spectacle qui lui était offert. Il aimait voir l'ordonnancement rituel et méticuleux. Les enfants de son âge rêvent d'être pompiers ou coureurs automobiles. Lui rêve d'être maître de cérémonie. L'ordonnateur de pompes funèbres ressemble à un metteur en scène du théâtre de la vie, de l'opéra et de la mort. J'avais, dit-il, sous les yeux les portails tendus de noir, mais aussi les tentures de mariage à raies rouges et blanches. Tout cela sur un parvis surélevé qui donnait totalement l'idée d'une scène. Mes parents se disaient « Ce petit est attiré par ça. Nous avons des amis dans les pompes funèbres, c'est un métier où il n'y a pas de morte saison. Pourquoi pas ?» En grandissant, il oublie les enterrements au profit des opérettes. À cette époque, au Châtelet, les opérettes deviennent des grands spectacles inspirés des comédies musicales de Broadway. Nourri par une famille qui adorait la musique et surtout l'opéra, il aurait aimé entrer dans le domaine du spectacle par la voie du théâtre chanté. Mais ses cordes vocales l'en ont vite dissuadé. Son incapacité de chanter et sa timidité chronique sont deux handicaps pour lui. Le sens de la répartie, et de l'improvisation le distingue de ses camarades, mais il n'en use qu'avec parcimonie. Timide, oui, mais il faisait rire. Il pensa alors qu'il pourrait peut-être en faire son métier. Ses distractions, outre les théâtres, étaient le cinéma, invention des frères Lumière en pleine expansion. D'autant plus, grâce aux Américains, elle vient de découvrir la parole. En 1933, la verrerie où travaille son père déménage à Villejuif. Un bouleversement se produit pour lui. Un déménagement. Loin de l'église Saint-Dominique, loin des scènes parisiennes, il continue à rêver. Des effluves caressent de temps en temps son esprit. Il profite de son enfance pour assouvir sa curiosité. Il a les yeux tournés vers la scène de Mogador. L'Europe, quant à elle, a les yeux tournés vers un pays devenu Reich. Le chancelier moustachu a des appétits d'ogre. Et là, on ne rit plus. Voici une première partie d'un sketch de Poiré-Sérault intitulé « Monsieur Petit Lagrelèche, parlementaire ». Et qui est « On ne peut plus d'actualité par ces temps de constitution de gouvernement ».
Dans le cadre de nos conférences parlementaires, nous avons présenté les semaines précédentes M. Taillel, indépendant centre droit valoisien, M. Bouchonneau, ancien parenté à l'Union des gauches démocratiques et commerciales. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir un leader de parti politique non moins éminent, j'ai nommé M. Petit Lagrelèche. Monsieur Petit Lagrelèche, je voudrais avant toute chose que nous essayions de définir votre rôle parmi nous. Enfin, bien préciser que ce n'est pas tellement le représentant d'une fraction du peuple français, ce n'est pas seulement le député qui va s'exprimer aujourd'hui, mais plutôt le chef de parti, n'est-ce pas ?
Oui, c'est ça. Oui.
L'homme de groupe.
Le président.
Le président, car vous vous présentez surtout en tant que président du groupe MRP.
C'est ça, oui, oui. En tant que président du MRP, oui.
Du MRP, c'est bien MRP, il n'y a pas d'équivoque.
Ah non, nous sommes d'accord, c'est MRP, modérément radical paysan. Nous sommes très jeunes, hein.
Oui, puisqu'il n'y a que quelques mois d'âge. Enfin, je voudrais d'abord que nous essayions de situer votre groupe dans la couleur politique française.
Ben écoutez, c'est bien simple, nous sommes turquoises.
Vous êtes turquoise.
Oui, enfin turquoise, mais tirant sur le jade. Hein.
Ah, avec une petite nuance de jade.
Oui, nous tirons sur le jade. Oui.
Ah, et ça vous fait siéger où, ça ?
Eh bien, alors, nous siégeons à l'extrême de l'AGF.
Ah, l'extrême de l'AGF.
Oui, mais à l'autre extrême.
Hein. Ah oui, oui. Ah, mais c'est bien ce qui me semblait. Il me semblait que l'autre était occupé déjà. Donc, l'autre extrême, c'est-à-dire à la droite du centre-gauche.
Ah ben, non, on ne sait pas du tout ça. Non, ça, c'est le mouvement d'action pour une République française unifiée qui est à droite du centre-gauche.
Ah, et qui est immédiatement à la droite du centre-gauche.
Ah ben oui.
Et vous, vous êtes où alors ?
Nous, ah ben, nous sommes beaucoup plus à gauche de la droite du centre-gauche.
Ah oui, je vois. Alors, plus entre le RGR et l'UDSR qu'autre chose.
Ah non, là, c'est le contraire. Là, c'est tout à fait le contraire.
Hein. Bah, écoutez...
Ah non. Alors là, si je peux me permettre, vous êtes perdu, alors. Hein.
Voyons. Si vous êtes vraiment à gauche ou à la droite du centre-gauche...
Eh bien, bah, comment voyez-vous ça ?
Eh bien... Vous êtes à côté du RGR ?
Mais pas du tout !
Mais voyons !
Mais vous êtes perdu, ce n'est pas... Mais c'est pourtant pas sorcier !
Mais là, alors, vous m'avez embrouillé.
Mais attendez, là, vous allez vous y retrouver. Est-ce que vous voyez l'hémicycle ?
J'en vois le fractionnement politique, grosso modo.
Vous l'avez dans la tête, là ? Vous l'avez dans l'œil ?
À peu près, oui.
Bon, oui. Vous voyez le président Le Troquet ? Oui, ça, c'est un truc que je vous donne. Nous, on se repère toujours sur le président Le Troquet, parce que lui, il ne bouge pas.
Oui, il est immuable.
Oh, bah, il est toujours là, quoi.
Oui, c'est un moyen mnémotechnique, bien sûr.
Oui, c'est ça, oui. Alors, quand vous arrivez dans le dos du président Le Troquet, vous me suivez toujours ?
Ah ben, j'essaie de réaliser. C'est encore un peu confus dans mon esprit.
Un peu confus,
hein? Je m'excuse.
Alors, attendez. Attendez, voir une chose encore bien plus simple. Vous avez la Madeleine.
Oui, ça, la Madeleine, je connais. Mais là, et bon. Là, je vais m'y retrouver.
Bon, vous l'avez. Alors, la Madeleine, la rue Royale.
Oui.
La Concorde. Mmh. Vous traversez le pont. Et alors, à ce moment-là, vous tombez dans le dos du président Lautroquet.
Ça y est. J'y suis. Je vous suis.
Très bien. Alors, quand vous êtes dans le dos du président Lautroquet, qu'est-ce que vous faites?
Je le pousse.
Non.
Bon, enfin, je veux dire, je l'écarte.
Non, vous le contournez légèrement sur son aile droite.
Oui.
Et vous avez la gauche.
La gauche-gauche?
Ah non, la gauche-droite.
Ça va venir. Allez-y.
Ensuite, vous remontez vers le centre.
Le centre démodéré, ça je vois.
Ah non, attendez. Le centre de gauche-droite.
Ah bon, papa, parce que le centre réel n'est pas au milieu?
Mais non, mais pas du tout.
Mais qu'est-ce qui est au milieu alors?
Eh bien, le centre fictif.
Ah bon? Mais alors, et où est le centre réel?
Alors, beaucoup plus à gauche de la droite du centre gauche.
Ah oui? Alors, je crois m'y retrouver. Enfin, vous allez me dire hein, si je me trompe. Si je me trompe, vous m'arrêtez.
Mais oui.
Ce qui fait que vous, en fait, si je comprends bien, au lieu de vous situer immédiatement à la droite du RDA où votre position politique vous placerait automatiquement...
En principe, c'est notre place. Hein.
Nous sommes d'accord. Alors, vous vous trouvez donc maintenant, depuis que vous avez été débordé par les radicaux non-valoisiens...
Oui.
Vous vous trouvez donc maintenant à gauche...
À gauche de l'URDS 19.
À gauche là ?
Oui. Oui, à gauche de l'URDS 19.
Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un parti nouveau ?
Ah oui, mais c'est un parti avec un cerveau frein et direction assistée, qui a été créé tout de suite après la guerre de 1914.
Ah oui. D'où son nom, URDS 19.
Voilà, ouais. Là vous y êtes, là.
C'est peut-être indiscret. Mais vous arrivez à vous y retrouver dans tout ça? Vous arrivez à vous situer politiquement?
Absolument pas, oui.
Non, moi, je m'en doutais un petit peu. Enfin, il n'y a pas de raison.
Ah ben, c'est pas facile, hein.
Ah, mais comment faites-vous, alors, quand vous siégez pour retrouver vos places,
hein? Alors là, le plus simple, c'est de dire que nous siégeons à l'extrême de la RDF.
La radiodiffusion française?
Non, à l'extrême de la RDF.
La RDF.
Ben oui, à l'extrême de la rangée du fond.
Ah! Oui. Ah, ça y est, j'y suis. Hein. Vous voyez, hein. En m'expliquant, j'arrive à comprendre quand même. Bon, alors maintenant que nous savons à peu près à qui nous avons affaire, j'aimerais que nous essayions de parler de votre activité personnelle, de l'activité de votre groupe, de votre activité politique en tout cas. Et j'en profiterai pour signaler un petit anniversaire. Je crois qu'on peut le dire, n'est-ce pas?
Oui.
C'est votre première sortie officielle depuis que vous avez refusé de constituer le gouvernement, c'est-à-dire depuis maintenant... Plus de 3 mois.
100 jours, hein.
Il y a exactement 100 jours.
En effet, 100 jours, jour pour jour. Hein. Jour pour jour que j'ai refusé les rênes de l'État.
Voilà.
Mais oui.
Et on peut savoir ce qui vous a dicté cette attitude de refus?
Ben, écoutez, certainement. Je serai très franc, naturellement.
Bien sûr.
Tout d'abord, la crainte de ne pas trouver une unanimité.
Oui.
Et d'autre part... Ça, je l'ai déjà dit, je ne voulais pas former le nouveau gouvernement sans sentir vraiment tout le pays derrière moi.
C'est ça. Et vous ne l'avez pas senti?
Si, mais pas suffisamment.
Pas suffisamment. Vous avez senti des réticences, quoi.
C'est le mot, oui. Des réticences de la part de certaines personnalités politiques en vue. Un certain manque d'enthousiasme, enfin, tout un ensemble de choses qui m'ont fait me méfier. Voilà. Et, alors tout d'abord, le président Macron a commencé par ne pas me contacter.
Ah bon?
Oui, ça a commencé comme ça. Ouais. Ah. Ça m'avait déjà mis la puce à l'oreille, je me suis dit, tiens...
Oui, enfin, vous savez, le président Macron, ce n'est jamais qu'une opinion du 67 millions.
Exactement. Aussi, je ne me suis pas alarmé outre mesure.
Oui, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas alarmant. Mais non. Mais à part le président, Vous sentiez d'autres adversaires en puissance?
Écoutez, oui. Il y a bien eu une déclaration commune de l'ensemble des partis en disant « Monsieur Petit-Lagrelèche représente politiquement tout ce que nous haïssons et nous le considérons à l'heure actuelle comme le fossoyeur de l'État ».
Oui, bien sûr. Mais enfin, était-ce vraiment un handicap en l'occurrence?
Je ne crois pas.
Non. Oh ben, je ne crois pas non plus. Non. Ce sont des déclarations de principe. Jusqu'où cela peut aller vraiment?
Et comment ces gens-là auraient réagi au cours d'un vote d'investiture? On ne peut pas savoir.
Ça reste le mystère. Je suis d'accord avec vous. Toujours est-il que vous avez suivi la crise ministérielle dès son début, puisque vous y étiez...
Malheureusement, pas à pas. Puisqu'à l'ouverture de la crise, je n'étais pas là.
Michel Serrault jouait Knock en 1992 au Théâtre de la Porte Saint-Martin. À la fin de la soirée, certains spectateurs venaient le voir dans sa loge. Un jour, une dame lui déclara « Excusez-moi de vous dire ça, monsieur Serrault, mais vous m'avez fait tellement rire. » Il lui répondit « Ne vous excusez pas, madame, je l'ai fait exprès. » C'était là toute sa philosophie, faire rire, donner du bonheur, offrir des émotions, donner. Voilà le mot le plus important. Et quand vous le croisiez dans la rue, en le remerciant d'un sourire ou d'un mot, son cœur s'emplissait de joie. Il disait être né dans une roulotte. La famille Serrault ne menait pas une vie errante. Ce mot roulotte évoquait pour lui l'heureuse fantaisie qu'il habitait. Le goût marqué pour la loufoquerie, un besoin de liberté et de jeu. Un air de jeunesse qui n'aurait pas eu de fin. Né le 24 janvier 1924 à la clinique de Brunois, il vient compléter cette grande famille. Ils étaient 7 à la maison. La grand-mère Léona vivait avec eux. On peut imaginer les grandes tablées et les beaux chahuts. Une fille et 3 garçons. Leur père avait la particularité d'exercer 2 métiers. Le jour, il était représentant en soierie. Plus tard, pour des collections de cartes postales. Le soir, il endossait l'uniforme de contrôleur au Théâtre de l'Ambigu à Paris. Ces 2 métiers étaient bel et bien pour adoucir des fins de mois difficiles. Leur mère était chef de la roulotte, dont le sens du dévouement était infini. Elle n'avait de cesse d'exprimer son côté mère poule. Elle s'occupait de l'économate de la paroisse. C'était en banlieue sud-est, dans la commune de Vitry-sur-Seine. Avec ses frères, ils fréquentaient le patronage. Ça permettait aux familles modestes de partir en vacances, de profiter de la mer ou de la montagne, de faire du sport. La mer, il l'a vue pour la première fois à l'âge de 8 ans, à Varangeville. La montagne, il la découvrira que lors du tournage d'une hirondelle a fait le printemps, à l'âge de 62 ans, dans le Vercors enneigé. Le patronage était aussi la troupe théâtrale, la chorale et le cinéma. Mais c'est une autre forme de spectacle qui l'attire, le cirque. Les grands cirques de l'époque, Pinder, Amar, Bouglione, s'arrêtaient régulièrement à Vitry. Il était fasciné par cette ville entière qui s'installait près de chez lui. Ces gens du voyage qui habitaient des roulottes colorées. Quand la piste s'illuminait, ces gens se transformaient en artistes magnifiques dans des costumes étincelants. Ses préférés étaient les clowns. Ils le faisaient rire et l'effrayer en même temps. Leur univers avait de quoi inquiéter une enfant. Ferait-il un jour le pitre lui aussi, pour de vrai? Les vacances, il les passait chez sa grand-mère paternelle qui était concierge rue Lavoisier à Paris. Elle régnait sur la loge d'un immeuble bourgeois qui était pour lui un formidable terrain d'observation. Il imaginait ce que pouvait être la vie de ses locataires en lorgnant leur façon de descendre et de monter les escaliers, frottés à l'encaustique par leur grand-mère. En détaillant leur tenue vestimentaire, il continuera toute sa vie à observer les gens, à la volée, pour saisir un regard, un tic, une expression. Il ne le sait pas forcément, mais c'est là que le comédien trouve sa nourriture. C'est à Stens qu'il commença sa scolarisation. Il disait ne pas avoir de souvenirs de l'école. La raison est simple. Dès qu'il ne s'agissait plus de s'amuser, et surtout d'amuser les autres, il s'ennuyait. Il remerciera toute sa vie les institutrices et les maîtres d'avoir supporté un élève aussi imprévisible, mais dans certaines limites, puisqu'il fut renvoyé à 2 reprises pour indiscipline. Voici la suite du sketch avec Petit la Grelèche par nos 2 comédiens.
Vous étiez en déplacement en province ?
À l'étranger.
Loin ? Loin ?
Oui, aux îles Bacala, dans l'océan Indien.
En mission ?
En représentation.
Pour la France ?
Non, pour les pâtes.
Pour les pâtes ? Vous me dites que vous êtes en représentation pour les pâtes ? Alors, je demande quelques éclaircissements.
Alors, vous n'êtes peut-être pas au courant ?
Non. Ouais, j'avoue que je suis au courant de bien des bruits de coulisses politiques, mais je ne sais pas tout.
Eh bien, voilà. C'est-à-dire qu'en dehors de mes activités au Parlement, je suis représentant en pâtes alimentaires.
Ah ben, voilà ce que j'ignorais.
Oui, ben je suis chez la Lune.
Ah bon ? Alors, en somme, vous travaillez et pour la Lune et pour la France.
Oui.
Vous êtes une sorte de Spoutnik humain, on peut définir ça comme ça.
Ben, si vous voulez, oui. C'est-à-dire que je mets les pattes au service de la France.
D'accord, mais pourquoi menez-vous ces 2 activités de front ?
Eh bien, écoutez, notre groupe est encore très jeune. Comme nous le disions là tout à l'heure, par conséquent, pas suffisamment argenté pour subvenir aux frais énormes d'une campagne de propagande, une campagne publicitaire.
Mais fatalement très onéreux.
Ben, c'est très cher, vous savez, et nous n'avons pas les épaules, voilà. Alors, pour cela, nous sommes obligés de faire appel à certaines maisons de produits alimentaires pour nous subventionner, si vous voulez.
Hein. Oui, des maisons qui vous apportent un appui financier substantiel.
Voilà.
Mais avec des charges pour vous, une contrepartie ?
Ah, ben, bien entendu, oui. À charge pour moi de parler dans mes conférences sur le prestige français, de parler de ces maisons-là.
Oui. Bah, vous glissez juste un mot en passant et vous ne pouvez pas vous étendre.
Ah non, ça ce n'est pas possible. Hein. Il faut faire ça avec énormément de tact. C'est très délicat. Hein. Par exemple, la dernière conférence que j'ai faite aux îles, je disais « Je ne crains pas de l'affirmer, la pâte, la lune est la représentation parfaite du génie français. »
Ouais. Je vois l'angle que vous avez adopté.
Et de ne pas faire de la pâte la lune sa nourriture de chevet, c'est trahir la France. C'est tout ce que je disais.
C'est ça, tout en demi-teinte.
Mais il faut qu'il soit ainsi, sinon on a l'air d'être acheté et c'est déplaisant pour tout le monde.
Hein. Ça devient odieux.
Moi, vous savez, je ne mange pas de ces pâtes-là.
Mais vous avez tout à fait raison. Oui. Seulement, j'ai lu dans la presse d'opposition que vous aviez été en but à certaines attaques assez violentes.
Oui, vous savez, on a reproché très souvent aux pâtes de la Lune d'être trop révolutionnaires de conception, vous voyez. Et alors, parce que conçus, selon les principes immortels de 1789, et ce sont toujours les mêmes reproches.
Et on ne sait jamais d'où viennent les attaques.
Mais si, on sait très bien. Hein. C'est la réaction, n'est-ce pas ? C'est Buitoni, Lustucru, enfin là, toutes les pattes réactionnaires.
Mais attendez, qu'est-ce que vous entendez par pattes réactionnaires ?
Mais écoutez, toutes les pattes qui mettent plus de 10 minutes à cuire.
Effectivement, mais j'aurais dû y penser. Non mais alors, c'est aux îles Bacala, dans l'océan Indien, que vous avez été surpris par la crise.
Oui, il a fallu interrompre mon itinéraire.
Hein. Votre cycle de conférences.
Oui, parce que le jour où la nouvelle a été connue, je devais faire une conférence sur l'instabilité, symbole de la politique française.
Ah, c'était mal tombé. Alors, vous avez décommandé.
Non, j'ai changé le titre. J'ai appelé ça la stabilité, symbole de la politique française.
Et vous avez refait un texte de discours nouveau ?
Ah non, le même.
Hein. Et ça a bien marché ? Vous avez été suivi comme vous le vouliez ?
Ah ben très bien.
Des salles chaudes ?
Oh oui, très bien accueillies. Je ne m'attendais pas à un accueil aussi chaud. Et c'est beau de voir une salle éclater de rire quand vous arrivez.
Ah, mais ce sont de grands enfants. Hein. Ils rient un peu à tout, non ?
Non, ne croyez pas ça. Hein. Non, ces gens-là rient, c'est vrai, mais uniquement quand vous leur parlez politique. Alors là, vraiment, ils s'amusent.
Mais dans quel esprit de chahut, de blague ?
Non, non, pas du tout. Non, c'est une marque de sympathie de ces peuplades.
Et vous avez adopté. Hélas, j'ai su que vous aviez dû couper court à vos activités puisque vous avez dû réintégrer la métropole pour jouer le rôle politique que nous savons.
Oui, de la nouvelle.
Vous vous êtes fait rapatrier d'ailleurs par l'ambassade.
Le consulat français. On m'a délivré mon avis d'expulsion très rapidement. Ça, c'était très 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 bien.
Oui, il les délivre facilement ?
Non, mais les parlementaires ont la priorité.
Ah, ben c'est logique, non, non, mais c'est vrai. Vous avez raison. Et vous êtes rentré donc via Marseille, puis Paris, la gare de Lyon, où vous deviez être attendu avec impatience, avec fébrilité.
Oui, ah oui, les principaux responsables du MREP étaient là. Et ils étaient venus m'attendre.
Oui.
Le vice-président, il y avait le secrétaire général et le trésorier.
C'est-à-dire
Ma femme, mon beau-frère et mon cousin Buffo.
Ah oui, ah bon, parce que ça se passe en famille, ça reste en famille tout ça. Ils étaient venus vous chercher en voiture ?
Oh non, 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 en sidecar.
En sidecar ?
Oui, le sidecar du parti.
Et vous avez rejoint tout de suite le siège de la rue du Manoir ?
Oui,
où,
oui.
Où vous attendait une session extraordinaire.
Le soir même.
Ah, oh, mais je l'ai su par les journaux.
En traversant Paris, remontant les Champs-Élysées. Ou là encore, nous avons été accueillis par la foule parisienne.
Oh bah ça, vous n'avez pas besoin de me dire, hein, je me doute. Enfin, je connais la remontée triomphale. Cette foule délirante, comme elle sait l'être dans ces cas-là.
Ah, c'est ça, oui, oui. Oui, délirante de discrétion.
Ah oui. Ouais. Ah mais ça m'étonne pas non plus. Ça c'est le côté pudique du peuple de Paris. Hein. Il vous sentait parmi les vôtres. Vous retrouviez votre femme, votre beau-frère que vous n'aviez pas vu depuis plusieurs semaines. Il voulait pas vous gêner.
Sûrement, oui.
Oh, bah, c'est d'ailleurs très beau.
Très beau, très beau. Ouais. Et ils étaient là, mais ils ne regardaient pas. D'ailleurs, ma femme et moi, nous avons été très touchés.
C'est très émouvant. Parce que vous n'aviez pas d'escorte de moto ?
Je vais vous dire, quand ma femme conduit elle-même le sidecar, ce n'est pas nécessaire. Hein. La circulation se fait d'elle-même.
Ah oui, les voitures se garent automatiquement.
C'est ça, oui, bah, ça se range. Alors nous en profitons, nous passons.
Et alors ? Il y a une chose que je vais me permettre de signaler, parce que les journaux n'en ont pas parlé. Et je trouve ça un peu cavalier de leur part. Bon. Monsieur le Président a eu un geste que je qualifierais d'exceptionnel après avoir fait le voyage les îles Paris sans aucune escale, après être arrivé à la gare de Lyon à 17h30 sans prendre le temps de manger un morceau, sans prendre le temps de faire un brin de toilette. Donc, Monsieur Petit Lagredèche n'a eu qu'une idée, se rendre à l'Élysée auprès de Monsieur le Président pour lui présenter sa liste de ministrables. Ce jour-là, vraiment, il était prêt à constituer le gouvernement sur l'heure.
J'étais prêt. J'avais travaillé toute la nuit. Et il fallait faire très vite.
Hein. Je sais.
Et en effet, vous avez raison de le rappeler. Je me présentais à 22h30 à l'Élysée et j'ai eu une chance inouïe. Je dois le dire tout de suite. Quand je suis arrivé, il y avait encore de la lumière.
Oui. Et ils ont veillé assez longtemps.
Donc, attendez, j'avise le planton. Ils ont toujours quelqu'un sur le pas de porte. Je dis, voilà monsieur, je viens pour la consultation. Ce monsieur m'a paru d'abord surpris, ne me reconnaissant pas dans la nuit. Hein. Être obligé de se présenter, c'est toujours un peu déplaisant. Alors, je lui ai dit, voilà, je suis monsieur Petit Lagrelèche, je viens pour la consultation. Il m'a fait répéter plusieurs fois. Finalement, il a très bien compris. Il m'a fait monter dans une voiture qui était en stationnement. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Est-ce que le président va me recevoir dans sa propriété à la lanterne ?
Non, mais parce qu'il part souvent là-bas ?
Ah oui, il passe tous ses week-ends à la lanterne. Nous montons donc en voiture et...
Oui. Et votre présidentielle qui était là ?
Oui, c'est ça, oui. La voiture présidentielle avait les grillages, n'est-ce pas ?
Ah oui, bon.
Et 8 jours après, quand je suis sorti de Sainte-Anne, alors...
Oui, bah parce que vous avez fait un stage à Sainte-Anne.
Ah oui. Mais c'est-à-dire qu'après la consultation, 8 jours en observation tout de suite.
Oh, vous êtes plus prudent. Oui.
Alors, quand je suis sorti, j'ai adressé une lettre à monsieur le président de la République, dans laquelle je lui disais que, tout blague mis à part, je refusais de former le nouveau gouvernement.
Voilà. Eh bien voilà, l'histoire de monsieur Petit Lagrelèche au cours de sa crise ministérielle 1957.
Merci Françoise, merci Philippe. Nous poursuivrons dans les semaines à venir avec les sketchs de Jean Poiré et Michel Serrault. Notre émission est maintenant terminée. Voici la citation du jour. Le rire est une bouée de sauvetage. Elle est de Michel Serrault. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site d'Altitude FM, altitudefm.com, et toutes les informations et bien d'autres sur le site de l'Union Régionale FNCTA, fncta-midipi.fr. Et si vous souhaitez me contacter, vous connaissez mon téléphone 05 61 42 12 45. Allez voir le théâtre amateur, c'est du théâtre de qualité, mise en scène, éclairé et sonorisé par des passionnés de théâtre. C'était Théâtralité, l'émission du comité départemental FNCTA de la Haute-Garonne, l'émission qui parle du théâtre amateur. N'oubliez pas de nous retrouver tous les mercredis à 12h30 sur Altitude FM 93.5. Bonne journée à tous et à mercredi prochain. Au revoir.
Au revoir.
À bientôt.
Au revoir.